Bonjour.
Vous êtes présent à Genève avec le réalisateur d'un métier sérieux. Ce soir, en avant-première à Genève, Thomas Lulti. Vous avez déjà travaillé avec lui pour Un médecin de campagne. C'était une évidence d'accepter ce rôle de professeur de français.
Oui, parce que vous savez, quand un metteur en scène vous réappelle après une expérience, ça veut dire qu'il vous apprécie, hein, tout bêtement. Quand on retourne chez le boucher, c'est qu'on aime sa viande. Hein. C'est trivial, mais il y en a plein des exemples qui prouveraient ce que je vous dis. Et pour nous, les acteurs, comme on est toujours sous le choix du metteur en scène, on n'existe que parce que quelqu'un dit « je vous veux dans tel rôle ». Donc ça a été vraiment une chance de pouvoir retravailler avec lui. De surcroît, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène. Et puis ce qui fait la différence dans les 50 ans d'expérience que j'ai eu maintenant, c'est l'humain. Alors si vous voulez, moi je pense que si vous voulez obtenir des 100 personnes qui travaillent pour un film, le fait qu'ils travaillent bien, peut-être même qu'ils travaillent le mieux possible, il faut les considérer, il faut les apprécier, je dirais même grossièrement, il faut les aimer. Et donc c'est pour ça que les acteurs peuvent aller au-delà d'une générosité moyenne, de leur petit boulot. D'un seul coup, ils peuvent apporter beaucoup, non seulement dans leur rôle, mais ils peuvent apporter beaucoup aux partenaires. Ils peuvent apporter beaucoup à l'équipe, avec une bonne humeur, une considération. Et ça, je trouve que ça développe notre métier d'interprète et ça le rend vivant et humain. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'être individualiste. Autrement, je pense, on fait un film, deux films, trois films. Puis si on est très intelligent, à moins d'être intéressé par l'argent et uniquement par ça, bon, faut changer d'expérience, quoi.
François Cluzet, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Justement, vous parlez de l'expérience d'échange, d'échanger, d'émulation avec les autres comédiens, comme avec les cinéastes. Et je crois que c'est la réputation que vous avez d'être toujours dans la communication, l'échange. C'est aussi le rôle que vous interprétez à l'écran, Pierre, ce professeur de français, qui est un petit peu le patriarche qui mène à la troupe et qui en même temps se remet en question.
Oui, c'est vrai, il se remet en question parce qu'il est le doyen de l'équipe, qu'il n'est pas loin de la retraite et que d'un seul coup, il découvre que ça ne marche pas, quoi. Sa façon de s'y prendre, elle n'est pas bonne. Il y a une scène de comédie dans le film où il lit en haute voix l'assommoir de Zola.
Qui est assommant.
Et c'est le cas de le dire. Et d'un seul coup, c'est intéressant qu'en fin de carrière, le type puisse se dire « bon, bah, mes élèves s'ennuient, et puis et moi aussi. Ah, bah merde alors, dis donc gars, il fallait peut-être te remettre en question. » Et c'est un peu notre cas à tous, et même moi qui ai 50 ans de carrière d'acteur, je suis vivant, j'aime encore ce métier, j'ai envie de tout donner. Vous savez, on apporte peut-être qu'une partie du divertissement, mais c'est essentiel aussi, à condition de donner quelque chose. Alors, bah, moi aussi, je me suis remis en question, surtout face à cette jeune génération très brillante que sont Vincent Lacoste, William Legbill, Adèle Exarchopoulos, voilà, Louise Bourgoin, Bouly Lanners. Je peux vous dire, ça déménage quand même, hein, c'est des grands interprètes. Donc c'était une chance d'être confronté à eux et d'avoir à jouer groupe. Parce que si vous avez un groupe à constituer, parce que l'auteur l'a écrit, eh ben, il faut faire fi de votre ego. Et d'une manière générale, le conseil que je pourrais donner aux acteurs, c'est d'avoir l'ego le plus petit possible.
Parce que, humilité.
Oui, parce que humilité veut dire curiosité. Et que la vie est trop courte pour ne pas être curieux. Si vous voulez, si on vivait 1000 ans, on pourrait être un peu... comment dire, je pars dans un truc que je ne maîtrise pas du tout, mais vous comprenez sans les mots ce que je veux dire. C'est tellement court, on ne se voit pas vieillir. On arrive, j'ai 68 ans aujourd'hui. J'en avais 18 hier, comprenez, en une nuit, j'ai pris 50 ans. Et donc je me dis, ça fait quelques années que je me dis ça, que j'ai quand même beaucoup de chance. Et comment je peux la renvoyer, cette chance, cette forme de boomerang là? Parce que c'est ça qui me rend heureux finalement. Vous savez bien que ce qui rend heureux, c'est plus donner que recevoir. On est fier quand on donne, et puis on fait quelque chose d'utile en donnant. Et dans notre job, alors comment on s'y prend? Eh bien, on s'y prend en travaillant, en étant le plus exact possible, en servant l'auteur, mais aussi en faisant partie d'un groupe. Et quand on fait partie d'un groupe, eh ben, il ne faut pas se prendre trop au sérieux soi-même, parce que 1 = 1. Moi, j'ai été élevé comme ça. Mes parents vendaient des journaux et ils m'expliquaient que même le type de l'hôtel particulier richissime à côté de nous ne valait pas plus que nous. Au même titre que, plus tard, c'est pas parce que j'étais un acteur connu que je valais plus que cette femme qui fait le ménage chez moi. Et j'ai toujours gardé cette philosophie parce qu'elle est tellement vraie. 1 = 1. qui que vous soyez. Maintenant, quand vous formez un groupe, eh ben, qu'est-ce qui peut faire vivre le groupe, comme dans une société, comme dans n'importe quel job ? Eh ben, c'est la générosité que vous avez. Et ça, après tout, si en plus ça rend heureux, il ne faudrait pas s'en priver. Je ne veux pas non plus avoir un discours de curé. Je ne suis pas Saint-Vincent de Paul. Mais ce que je veux dire, c'est que dès lors que vous avez à faire groupe, il ne s'agira, la réussite ne fonctionnera que par ce que chacun s'y mette. C'est une napalissade, ce que je dis. Mais en tout cas, nous, on le prouve à l'écran. Il faut que ça soit vrai, quoi. En plus, on a un metteur en scène qui ne veut que du crédible, hein. Il ne fait pas des films de fiction avec des types qui s'envolent et tout ça. Non, lui, il parle d'un cas réel. C'est-à-dire, quel est le rôle des profs aujourd'hui à l'école, alors qu'ils sont mal payés, ils sont mal considérés, qu'il fut un temps où ils avaient une place importante, le maire, le médecin, le prof, aujourd'hui, non. C'est fini. Les soignants, on ne les considère pas. Et ce n'est pas la faute que des gouvernements successifs. C'est aussi la société qui a perdu pas mal de ses valeurs. Au profit de certaines autres. Hein. Il ne s'agit pas d'être réactionnaire. Peut-être d'égalité, qu'il y avait moins avant. Mais maintenant, merde, les profs, c'est essentiel. Et il a voulu faire un film sur les profs parce que toute sa famille est prof. Et je crois qu'il l'a bien fait, parce que c'est pas un film qui ne parle que de l'école du côté des élèves, ni du côté de l'administration, ni du côté des tragédies qu'on a connues en France, mais qu'on connaît dans le monde entier.
Encore récemment.
Encore, bien évidemment, encore récemment. Mais d'un seul coup, de qu'est-ce que c'est que ce boulot d'enseignant ? Ben, c'est, faut être dans le monde. C'est une vocation, avec un salaire pareil et une aussi mauvaise considération. Or, on va en avoir besoin, c'est essentiel. Donc c'est intéressant de faire un film là-dessus.
François Cluzet, vous m'arrachez. Je pense que vous avez lu avec vos yeux télescopiques mes questions parce que vous m'arrachez les mots de la bouche.
Ah,
vous avez parlé de vocation. Moi, j'allais dire, il y a un engagement, une vocation, comme le médecin de campagne, d'ailleurs. Et aussi, ce film choral, vous l'avez mentionné, c'est un groupe. Il faut être à la fois homogène, à l'écoute des autres, donner. D'ailleurs, vous donnez dans le film puisque vous roulez en safran et vous invitez vos collègues à voyager avec vous. Justement, ce film choral, c'est peut-être une gageure pour... Thomas Lilti, parce que c'était difficile de gérer tout ce monde, ça marche très bien à l'écran. Est-ce que, justement, vous étiez en échange ? Comment ça se passait ? Il y avait des moments d'improvisation ou c'était très orchestré ?
Non, c'était plutôt très, très écrit. Mais vous savez, pour être le leader d'un groupe de 100 personnes, 50 présents sur le plateau et 50 en ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire montage, mixage, sortie du film, jusqu'à l'affiche et jusqu'aux exploitations, pour être le chef de ces 100 personnes-là, il faut avoir des qualités. Hein, parce que ce n'est pas parce que vous êtes Dieu le Père que les gens vous respectent, parce que tout le monde sait que Dieu le Père, il ne fait pas de cinéma. Donc ce type, Thomas Lilti, il a cet humanisme. Vous parlez avec lui, si vous avez l'occasion tout à l'heure de parler avec lui, vous allez voir comme ça se dégage. C'est un type qui est... alors, il est médecin également, mais il porte un diagnostic sur les choses avec une intelligence incroyable. Mais il ne s'arrête pas là, il n'est pas amoureux de lui-même. Il a envie de travailler en société, en groupe, il rêvait de faire du cinéma, il s'y est mis. Et il est le leader de ça, mais pour que les acteurs, aussi bien que les techniciens, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais quelque part, il faut qu'ils vous admirent. Parce que s'ils ne vous admirent pas, ben, ils vont faire le minimum syndical. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, moi qui ai fait beaucoup de films, je peux vous assurer qu'un metteur en scène à l'autre, je n'ai pas les mêmes plaisirs, les mêmes qualités, les mêmes rendus en termes de jeu. Parce que si le metteur en scène est médiocre, et que je joue mal et qu'il me dit « c'est parfait », j'irai moins loin que si quelqu'un est exigeant. Mais qu'est-ce que j'accepterais de l'exigence du metteur en scène ? Que si il est humain aussi. Parce que si c'est une tête de con et qu'il ne pense qu'à sa gueule, je ne vais pas l'écouter longtemps parce qu'il me gênera humainement. Parce que moi, je suis acteur, mais je suis aussi un gars comme tout le monde. J'ai ma vie, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon logement. Je respire, je suis vivant. Je consacre pas ma vie au cinéma, c'est pas vrai. Je consacre pas ma vie en étant qu'acteur, même si c'est ma passion. J'ai aussi envie d'aller à la pêche, envie de regarder les autres, être amoureux de la peinture, de la sculpture, aussi de mes amis, des gens que je peux découvrir, de l'échange que je peux avoir, n'importe quel moment. Donc, un leader, c'est un type qui a la capacité humaniste de pouvoir emmener avec lui 100 personnes.
Donc c'est un leader, on l'a compris. Vous avez mentionné que vous avez envie d'être amoureux de la peinture, de la musique, d'avoir une place importante pour votre famille. Des fois, peut-être en tant qu'acteur, on est très accaparé. Et justement, c'est un peu l'image que donne le professeur de français que vous interprétez. Mais quand il se remet en question, il y a sa femme qui le soutient parce qu'il a un manque de communication avec son fils. J'imagine que ça vous a parlé aussi d'avoir le soutien de ses proches, comme la femme qui lui dit « mais ne doute pas de tes compétences
». Bon, moi, évidemment, cette question, elle est très importante parce que d'abord, il se plaint. Donc, vous savez, quand vous avez le mari qui se plaint de sa condition professionnelle en rentrant à la maison, on devrait voir dans les yeux de sa femme le côté « écoute, bon, si tu pouvais éviter de te plaindre, on passerait peut-être une meilleure soirée ». Mais il se plaint parce qu'il se rend compte qu'il ne s'est pas remis en question. Et que finalement, ses élèves s'emmerdent, comme c'est dit dans le film, et que lui aussi s'emmerde. Alors elle le soutient certainement parce qu'ils forment un couple et que finalement, ils se sont donnés largement l'un à l'autre que pour continuer à vivre ensemble. Mais il y a un autre problème, c'est le problème de leur enfant, de leur fils. Parce que souvent, et c'est ce que dit le metteur en scène, quand vous avez des parents qui sont profs, ils mettent vachement de pression pour que vous fassiez des études. Et là, il y a eu certainement un problème quant à l'ambition du jeune, du fils. Et oui, et qui peut-être veut faire, je ne sais pas, pourquoi pas du cinéma.
De la musique.
Voilà, de la musique, exactement. Et puis qu'on lui dit, ah non, un métier sérieux, c'est comptable, c'est médecin, c'est infirmier, c'est banquier. Et non, je veux faire de la musique. Oui, mais non, parce que tu vas crever de faim. Et ça, c'est le rôle des parents, de prévenir le danger du choix de l'enfant. Et donc, il ne se parle plus. Et s'il y a un truc que j'ai adoré dans le rôle, c'est au moment où, en tant que papa, alors qu'on ne se parle plus avec ce fils, il lui demande s'il peut manger à côté de lui, ça ne le dérange pas. Et c'est beau parce qu'à ce moment-là, c'est le père qui fait le premier pas. On pense souvent que c'est les enfants qui doivent faire le premier pas. Mais non, parce que les enfants, ils sont beaucoup plus dans l'embarras. Le père, lui, il a la maturité, il a l'humanité, il a l'expérience. C'est à lui de dire à l'enfant, même si c'est pas dans l'ordre des choses, mais si c'est dans l'ordre des choses.
Merci François Cluzet, on doit malheureusement vous quitter. Bon succès pour l'avant-première ce soir au Cinéma City et bon succès pour le film.
Merci, c'est gentil, merci beaucoup.